L'épisode des marchands du temple est curieux, parce que dans tout l'évangile, Jésus fait toujours preuve d'une certaine douceur, bon, pas toujours verbale, mais en tout cas physique, et voilà qu'il est pris d'une violente colère, qu'il donne des coups de pied dans les tables, qu'il se fait des fouets avec des cordes, qu'il chasse tout le monde, qu'il met un désordre pas possible, donc sur le parvis du temple, où il y avait des marchands qui vendaient un certain nombre de choses. C'est suffisamment curieux pour que l'on puisse se demander qu'est-ce qui a pu générer chez le Christ une telle colère? Pourquoi est-ce que tout à coup il est sorti de ses gonds? La colère est en général considérée comme une chose plutôt discutable, mais l'on dit bien que parfois il peut y avoir des saintes colères, il peut y avoir des causes particulièrement graves pour lesquelles cela peut mériter qu'on se mette en colère, parce qu'il y a de l'intolérable. Alors là, c'est le seul endroit où Jésus vraiment se met en colère. Y aurait-il là la chose la plus intolérable au monde, la chose la plus grave qui soit en religion, la chose la plus insupportable qui justifie cette colère du Christ? Alors on est toujours un petit peu gêné quand on lit ce passage parce que nous organisons régulièrement des ventes dans nos temples, et hier encore il y avait la vente de l'entraide dans ce lieu même. Et à la place de ces endroits avec la table sainte et la chaire, eh bien, il y avait des gens qui vendaient des pâtés de canard, des confitures et d'autres choses tout à fait profanes. Et alors on se dit, mais est-ce que Jésus, par hasard, serait-il opposé aux ventes paroissiales? Vous savez bien sûr que ce n'est pas le sujet, et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement, cela n'a rien à voir parce que les protestants ont un grand tort, c'est d'appeler temple leur lieu de réunion. En effet, le temple, normalement, c'est le lieu où habite la divinité. Le temple, c'est le lieu où Dieu est présent. Supposez qu'il n'est pas vraiment présent ailleurs. Le temple de Jérusalem, c'était le temple qui abritait le Saint des Saints, qui est le lieu même tellement sacré qu'on pensait que Dieu y était, que personne même ne pouvait y pénétrer. Or, nos temples protestants ne sont pas en ce sens des temples. Ce sont des salles de réunion. Et en effet, nos temples, il n'y a pas dans un temple de Saint-Sacrement ou de présence réelle, de quelque chose qui dirait qu'ici, Dieu serait plus présent qu'ailleurs. Les mauvaises langues disent que pour les protestants, il n'y a rien de sacré. La réalité, c'est le contraire. C'est que les protestants disent « tout lieu est sacré » et Dieu est présent partout. Il n'est pas plus présent ici, dans ce temple, qu'il n'est dans votre salle de bain, dans votre chambre à coucher ou sur votre lieu de travail. Parce que cela laisserait supposer que Dieu pourrait ne pas être présent dans certains lieux. Mais pour le protestant, tout lieu est sacré, tout lieu est un temple saint, tout lieu est le lieu même de la présence réelle, et en tout lieu, on peut adorer le saint sacrement de Dieu. Par conséquent, il n'y a pas de lieu saint et de lieu pas saint pour les gens issus de la Réforme. Tout lieu est sacré, et notre temple n'est pas vraiment un temple, on devrait l'appeler « église ». Parce qu'en effet, l'étymologie du mot « église », ça vient de « ecclesia », c'est l'endroit où se réunit la communauté. Et donc, effectivement, nos temples sont des lieux où se réunissent la communauté. Et une communauté, elle ne fait pas que d'écouter la parole, elle ne fait pas que de prier. Des fois, elle va aussi à des activités plus profanes. Et les enfants eux-mêmes, qui sont la communauté, cet après-midi, dans le temple, eh bien, joueront à chat autour des bancs et feront du foot dans le cœur, parce que, après tout, nous ne sommes pas appelés à prier toute la journée. Et Dieu est présent ici, bien sûr, comme il est présent partout, mais je ne crois pas que Dieu s'offusque de voir des enfants jouer, de même qu'il ne s'offusque pas de voir des gens se préoccuper d'œuvres sociales importantes et essaye ainsi de collecter des fonds pour permettre d'aider les plus démunis. Autrement dit, les marchands du temple n'ont rien à voir avec nos ventes paroissiales parce que, vous l'avez compris, nos lieux de culte ne sont pas à proprement parler des temples. Et je soupçonne d'ailleurs que ce mot de temple n'est venu que par une sorte d'anticatholicisme primaire du temps de la Réforme. Comme les catholiques appelaient leurs églises églises, les protestants ont cherché un autre lieu, une autre dénomination, et ils ont pris le mot temple, ce qui n'est pas, à mon avis, très heureux. Et par conséquent, s'il ne s'agit pas des ventes paroissiales, de quoi s'agit-il? Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de temple à proprement parler. Le temple de Jérusalem a été détruit. Et par conséquent, ce qui est en question, ce n'est pas tellement un édifice, Ce qui était en question, c'est l'enjeu même du temple. Or, le temple, je vous l'ai dit, c'est le lieu de la présence de Dieu. Alors, pour le chrétien, qu'est-ce qu'est le temple à proprement parler ? Eh bien, il y a deux réponses possibles. L'une, c'est le Christ lui-même qui le dit, juste après cet épisode des marchands du temple, quand il dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai », les Juifs ne comprennent rien, ils croient qu'il parle du temple avec des pierres, et le texte de l'Évangile dit « Il parlait de son propre corps ». Donc le premier temple que nous avons, ce n'est jamais un édifice, mais c'est le Christ lui-même. Parce que le Christ est le lieu même de la présence de Dieu. Et c'est dans le Christ que nous pouvons voir Dieu. Bon. L'autre temple, c'est l'apôtre Paul qui nous le donne. Et il nous dit, « Vous, vous êtes le temple du Saint-Esprit, et l'Esprit de Dieu habite en vous. » Donc ça, je comprends aussi. L'autre temple, c'est nous-mêmes, parce que Dieu est en nous, et donc le temple, c'est soit le Christ, soit nous. Autrement dit, pour nous, le temple aujourd'hui, c'est le lieu de notre relation à Dieu. La manière avec laquelle nous pensons que Dieu est présent dans nos vies. Et c'est ça la question, comment est-ce que nous envisageons le mode de présence de Dieu dans nos vies et que faisons-nous pour que Dieu soit le plus présent possible ? Et je crois donc que ce à quoi le Christ s'oppose dans cet épisode des marchands du temple, c'est au commerce qu'il y avait à l'entrée du temple. Mais ces commerçants, ce n'étaient pas des marchands de cartes postales, comme il y en a aujourd'hui devant le temple de Jérusalem, mais c'étaient des gens qui vendaient des animaux pour que les pèlerins puissent faire des sacrifices. Donc les gens arrivaient au temple, et là, leur dévotion, c'était d'offrir des sacrifices à Dieu. Alors ils arrivaient devant le temple, ils donnaient de l'argent, ils achetaient un agneau, un pigeon, je ne sais quoi, et puis ensuite, cet animal servait à faire un sacrifice pour Dieu. Et puis si on voulait donner de l'argent au temple, il ne voulait pas qu'entre dans le temple de la monnaie avec l'effigie de César. Alors il y avait des changeurs de monnaie à l'entrée, on échangeait sa monnaie contre une autre et on pouvait faire une offrande au temple. Et ça a fondamentalement agacé le Christ, on le comprend. Parce que je crois que ce à quoi il s'est opposé, c'est à une dimension commerciale que peut prendre notre relation à Dieu. Et ce qui est, je crois, condamnable, c'est lorsque l'on fait dépendre la relation à Dieu au fait de payer. Donc la relation à Dieu, ce n'est pas parce que moi je donne quelque chose que Dieu va m'aimer, ce n'est pas parce que moi je fais une bonne œuvre qu'ensuite Dieu sera copain avec moi ou qu'il va m'exaucer de ceci ou d'une prière ou de cela. Cela n'a rien à voir. Et je crois que là, la grosse colère de Christ, c'est ça. Alors, effectivement, c'est quelque chose pourtant d'assez naturel. Et nous avons tous un peu tendance à penser qu'il y a une justice immanente, c'est-à-dire que si nous faisons le mal, eh bien, nous serons punis. Bien mal acquis ne profite jamais. Et nous avons tendance à penser aussi que si nous faisons le bien, si nous sommes bien fidèles, bien justes, eh bien, Dieu nous récompensera. Je ne sais pas comment, par la vie éternelle ou par une vie plus agréable. Et le problème, c'est que si l'on fait le bien en se disant « Dieu me le rendra », eh bien, on ne fait plus vraiment le bien. Parce que le vrai bien que l'on fait, c'est l'amour, ce que l'on fait par amour. Et moi, j'aime mieux quelqu'un, puisque c'est aujourd'hui mon anniversaire, qui me donne 1 centime avec amour que quelqu'un qui me donne des millions sans amour. Parce que d'être submergé de cadeaux n'a jamais fait vivre personne. Ce qui compte, c'est l'amour, c'est la gratuité. Peu importe ce que l'on reçoit et ce que l'on fait. Et donc le véritable amour, c'est ça, c'est la gratuité. Je donne pour rien. Et ma relation à Dieu doit être une relation d'amour. Je ne peux pas sans arrêt calculer et me dire « j'aime Dieu, mais ça me rendra service ». Je ne peux pas sans arrêt me dire « si je fais le mal, Dieu me punira ». On ne peut pas sans arrêt se dire « il m'arrive tel ennui, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ?» Ça, le Christ a raison. Ce sont des poisons de la vie spirituelle. Et trop souvent, j'ai vu des gens même venir me voir et me dire « voilà, monsieur le pasteur, je voudrais découvrir la foi, je voudrais avoir la foi, je voudrais découvrir le Christ ». Alors je leur dis « c'est une très bonne idée, mais pourquoi ça ?» Et me dire « eh bien, parce que, voyez-vous, On m'a annoncé hier que j'avais un cancer ou je ne sais quoi, et je pense que ce serait important que je découvre ça, ça m'aiderait dans ma vie. Chaque fois que j'ai eu ce type de raisonnement, la personne n'a jamais abouti à quoi que ce soit. Parce que la foi ne peut être qu'un acte gratuit. Pourquoi je prie? Pourquoi j'aime Dieu? Pourquoi je suis chrétien? Pour m'attirer des avantages? Pas du tout. Je le fais parce que c'est comme ça, parce que c'est ma conviction et parce que je crois que c'est bien comme ça. Et même si je fais du bien à mon prochain, si je fais une bonne œuvre, pourquoi je fais une bonne œuvre? Pour qu'on me tresse des couronnes et qu'on me dise « Ah, ça c'est quelqu'un de bien, de généreux, de formidable !» Eh bien, si vous faites des bonnes œuvres comme ça, vous pouvez vous les garder. Les seules bonnes œuvres qui comptent, c'est celles que l'on fait parce que l'on croit que c'est bien de faire ainsi. Comme dit le Christ d'ailleurs dans l'Évangile, « Quand tu donnes avec ta main droite, que ta main droite ne sache pas même ce que donne ta main gauche et l'inverse. » Moi, je donne, et peu m'importe que ce soit reçu, pas reçu, apprécié, pas apprécié, peu importe qu'on me félicite, peu importe que Dieu me dise « Tu es quelqu'un de formidable ». De toute façon, comme dit l'Évangile, nous sommes tous des serviteurs, non pas inutiles, mais sans mérite. Ce que nous faisons, nous aurions déjà dû le faire, et ce que nous avons fait, eh bien, nous pourrions le faire 10 fois plus. Donc, vous voyez, le gros poison de la vie religieuse, c'est bien ce côté commercial que nous voulons toujours faire revenir en courant dans notre relation à Dieu, dans notre relation aux autres. Et ça, c'est absolument effroyable parce que cela fausse tout. La seule chose, c'est l'amour. Et en amour, il n'y a pas de commerce. En amour, il n'y a pas d'échange de donnant-donnant, de je te donne ci, si tu me donnes ça, et si je fais ci, ça va m'obtenir ça. L'amour, c'est le don gratuit. Et je crois que le Christ a voulu nous dire, effectivement, que ça, c'est la seule chose essentielle. Tout le reste, mais alors là, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Vous pouvez dire le Notre Père assis, comme les protestants, ou debout, comme les catholiques. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a de quoi se prendre la tête pour ces questions-là? Vous pouvez prendre la communion avec des bouts de pain ou avec des hosties. Est-ce qu'on va encore faire beaucoup de conciles sur cette question? Est-ce qu'on va encore se demander si le prédicateur doit être habillé en noir ou en aube blanche? Ou s'il doit y avoir une bougie ou pas de bougie dans les églises. Vraiment, on marche sur la tête, si vous voulez. L'important, évidemment, il est ailleurs. L'important, c'est de faire de la religion une religion d'amour et de la gratuité. Tout est gratuit dans la religion. Vous venez au culte, c'est gratuit. Vous y venez pour rien. C'est offert, par amour. C'est un acte d'amour, pour Dieu, pour vous, pour les autres, pour je ne sais qui. Mais on vient sans rien attendre. Si vous venez en vous disant « Ah, je vais avoir une prédication intéressante », vous pouvez repartir, vous n'êtes pas dans le bon objectif. On vient comme ça pour rien. Et si on n'a rien reçu, eh bien on n'a rien reçu. Et moi, qu'est-ce que j'ai donné? Et si j'ai donné et que ça n'a pas été reçu, quel est le problème? La vie doit fonctionner comme ça, sinon on tombe dans une caverne de brigands. Et dans ce monde, malheureusement, tout se paye, tout se monnaie, tout s'échange, tout se calcule. Et là, c'est un danger terrible, parce qu'on a du mal à échapper à ce côté commercial de l'existence. Il faut qu'il y ait dans notre vie un lieu de la gratuité, un lieu total de la gratuité. Et je crois que le seul lieu total de la gratuité possible, c'est dans la religion bien comprise, c'est-à-dire dans la foi. Et même dans l'amour. Quand je parlais de l'amour, vous pouvez dire « mais en famille aussi j'ai la gratuité ». Oui, plus ou moins. On essaye d'y tendre, mais n'empêche que quand même dans le couple ou même avec ses enfants, on est quand même toujours obligé de se dire « ben oui, mais si j'ai fait une gaffe, si j'ai fait une bêtise, je vais le payer. Et si je fais du bien, ça va mettre l'autre de bonne humeur, j'en sais rien. » Il y a toujours des conséquences quand même de ce que l'on fait. Alors qu'avec Dieu, il n'y en a pas. Et c'est là où on a en Dieu le seul véritable amour. Parce que lui seul me comprend. Et lui seul me pardonne, mais me pardonne vraiment quand j'ai fait une erreur, quand je me suis trompé, quand j'ai mal évalué. Lui, il me comprend, il me pardonne, il me reçoit. C'est le seul lieu possible, total et absolu de la véritable gratuité dans mon existence. Et je crois fondamentalement que sans cette notion de gratuité, sans cette notion de grâce, on ne peut pas vivre. Parce que toujours tout faire payer à tout le monde, c'est impossible. Et en effet, nous sommes toujours débiteurs de quelque chose, toujours coupables de quelque chose. Paul le dit dans sa lettre aux Romains. Il dit, voilà, nous sommes tous pécheurs, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Donc si Dieu voulait faire les comptes, eh bien on aurait cher à payer. Hein. Eh bien voilà, il faut qu'il y ait un endroit de tranquillité. Un point sur lequel on puisse se reposer et dire, j'ai là un rocher, quelque chose de sûr, qui ne peut jamais m'être ôté. Il y a là un amour absolu, indéfectible, sans faille, qui me reçoit, dans lequel je peux trouver la tranquillité, dans lequel je peux trouver la paix, dans lequel je peux trouver la force dont j'ai besoin pour pouvoir moi-même, à mon tour, rayonner dans ce monde et apporter quelque chose. Sinon, eh bien, cela ira toujours, je dirais, dans le mauvais sens. Et donc, vous disais-je, ces histoires de sacrifice, ça peut sembler un petit peu secondaire. Et pourtant, je vous l'ai dit, c'est le seul moment où le Christ se met vraiment en colère. Et donc, il ne faut pas dévaluer cette question, justement, de la gratuité. Je crois que c'est, je dirais, la question la plus importante de tout l'Évangile. Et d'ailleurs, c'est ce que l'Évangile de Jean a mis tout au début, juste après les noces de Cana, il y a les marchands du temple. C'est la base de tout. Et cette tendance au commercial, vous disais-je, menace aussi notre propre pratique religieuse. Pas seulement notre attitude dans le monde, mais aussi notre pratique religieuse. Parce que parfois, nous finissons par croire que la pratique est importante, que les rites sont importants. Et finalement, nous voudrions gérer notre relation à Dieu à coup de rites. Ah voilà, ça simplifie les choses. Dieu, c'est compliqué, mais au moins, réciter le Notre Père, je sais faire. Aller à l'église, je sais faire. Donner au temple, pourquoi pas. Et donc, nous voulons toujours remplacer la relation à Dieu par des rites. Et ça aussi, c'est quelque chose qui semble ne pas plaire au Christ. Et il dit, ma maison est normalement une maison de prière. Et vous en faites une caverne de brigands. Bon, et donc l'important, c'est ça, c'est la quête personnelle de Dieu. C'est la prière, c'est la relation personnelle à Dieu. L'important, ce n'est pas le rite, ce n'est pas l'organisation, ce n'est pas la pratique. La seule chose importante, c'est de vivre sa foi de tout son cœur. Et ça, Jésus le dit d'ailleurs dans d'autres endroits où il dit, vous savez, hein, ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui hériteront le royaume de Dieu. C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, eh bien, c'est d'aimer son prochain comme soi-même et d'aimer Dieu de tout son cœur. C'est très simple. Et si le temple, vous disais-je, c'est nous-mêmes, quand Jésus chasse les marchands du temple, il invite à ce que notre relation à Dieu ne soit pas encombrée de tous ces personnages par lesquels il faut passer pour accéder à Dieu. La pratique religieuse elle-même est une bonne chose si elle nous aide à ne pas oublier Dieu, à le découvrir, à apprendre mieux qui il est. Mais la pratique religieuse elle-même peut devenir un obstacle et peut en arriver à masquer le Dieu qui est si essentiel pour nous. Parce qu'il faut que notre vie religieuse ne soit pas encombrée de principes, de règles, de calculs. Et ça vient très vite. Quand nous finissons par croire qu'on ne peut accéder à Dieu que si on applique la bonne liturgie, que si on a la bonne religion, la bonne confession, le bon rite, la bonne pratique. Tout cela, ce sont les marchands du temple. Tout cela, ce sont des brigands et des voleurs. L'important, eh bien, c'est d'aller à Dieu directement. L'important, comme le dit le Christ, c'est la prière. Alors là, je ne veux pas dire que c'est forcément le fait de prier avec une sorte d'effusion extraordinaire. Tout le monde n'est pas doué pour la prière. Mais l'important, c'est la spontanéité de sa relation à Dieu, qui peut être affective par une prière enflammée, mais qui peut être aussi une quête intellectuelle de la vérité, de ce qui est beau, de ce qui est essentiel, de ce qui est bon dans l'Évangile. L'important, c'est la spontanéité vis-à-vis de Dieu, le naturel vis-à-vis de Dieu, indépendamment de toutes ces règles que les gens veulent nous imposer en disant « vous n'avez pas le droit d'offrir telle pièce dans le temple, il faut changer les pièces ». Non, vous allez à Dieu, Dieu n'a besoin ni de pièces, ni d'agneaux, ni de pigeons, ni de prières, ni de liturgie, ni d'eucharistie, ni de baptême, ni de mariage, ni de rien. Dieu, il a besoin que d'une chose, c'est que vous aimiez votre prochain comme vous-même et que vous le cherchiez de tout votre cœur. Tout le reste, c'est du baratinage. et c'est souvent des obstacles dangereux et souvent l'occasion pour vous extorquer votre argent ou d'autres choses. Donc l'important dans sa relation à Dieu, c'est la sincérité, c'est la disponibilité. Et c'est vrai aussi dans sa relation aux autres. L'important dans ma relation à mon prochain, c'est de ne pas trop la médiatiser par des règles, par des changeurs de monnaie. C'est la spontanéité, l'immédiateté de la relation à l'autre. Et là, il y a le danger, en passant d'ailleurs de toutes ces œuvres caritatives. Ah, il faut s'occuper des pauvres. Ben, c'est très bien, je fais un chèque à Médecins sans frontières. Eh bien, envoyez-moi tous ces changeurs de monnaie. Préoccupez-vous du pauvre qui est à votre porte. Ça n'empêche pas de donner à Médecins sans frontières si vous voulez, mais ne pensez pas que cela va remplacer l'amour du prochain. Et donc voilà, ce qu'il faut, c'est justement purifier notre relation à Dieu. Dans certaines vieilles Bibles, on parlait de cela, on disait la purification du temple. C'est beau ce terme, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on dit Jésus chasse les marchands du temple. Autrefois, on appelait ça la purification du temple. Nous devons purifier notre relation à Dieu, purifier notre relation aux autres, parce que je vous rappelle qu'il n'y a qu'un seul commandement, c'est tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il faut que le Christ reste dans notre vie comme cette force purificatrice. Donc j'aime ce Christ qui finalement met un grand bazar pas possible dans le temple. Parce qu'on a trop l'image d'un Jésus sympathique, gentil, béni, oui, qui dit qu'il faut aimer et pardonner son prochain. Certes, ça c'est très bien, et il a bien fait de le dire. Mais Jésus, c'est parfois aussi celui qui vient mettre un sacré bazar dans notre religion, dans notre relation aux autres, dans notre propre existence. Et il faut que le Christ reste dans notre vie une force purificatrice, qui nous permette de remettre les choses dans la bonne perspective. Qu'il purifie notre vie, qu'il la débarrasse de tout ce fatras que nous accumulons et qui nous masque la vraie réalité. Et je crois que c'est même ça la vraie religion. La vraie religion, ce ne sont pas des règles, ce ne sont pas des pratiques, des disciplines, des liturgies, des droits canoniques. La vraie religion, c'est une force qui fait tomber les règles. La bonne religion, c'est une force qui nous emmène au-delà des règlements. Au-delà de ce qui est codifié, au-delà de ce qui est prévu, qui nous fait sortir de l'attendu et de la banalité. La vraie religion, c'est quelque chose qui nous libère même des lois et des règles. Alors, non pas pour prétendre à une valeur supérieure de l'anarchie, non pas pour vivre sans règles, mais d'abandonner toutes ces règles pour retrouver la seule règle essentielle qui est celle de l'amour, l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Et la vraie religion, ce n'est pas celle qui crée un État avec des lois, avec un empereur sacré et sacralisé par la religion. La vraie religion, ce n'est pas celle qui crée un État, ce n'est pas celle qui crée une institution. La seule vraie religion, c'est celle qui fait tomber le mur de l'Est, celle qui fait tomber les tyrans, c'est celle qui libère les peuples, celle qui permet aux chrétiens de désobéir et de trouver un autre mode de vie et de déboulonner les dictateurs. La vraie religion, elle est là, plus que dans les grandes églises où il y a des prélats institutionnalisés, bien payés, bien habillés et qui parlent avec grandeur. Et dans notre vie aussi, il y a bien des murs. Dans notre existence concrète, dans notre relation aux autres, il y a bien des règles, bien des habitudes qui nous engluent, qui nous empêchent de voir le prochain, qui nous empêche avec naturel de dire à l'autre « je t'aime », qui nous empêche avec simplicité d'aller vers l'autre. Ah, parce qu'il n'est pas de mon monde, on n'a pas été présenté, on n'est pas du même milieu social, on ne se connaît pas, il fait ci, je n'apprécie pas, il a divorcé, il n'est pas bien. La vraie religion, elle est au-delà de tout ça. Pas de règles. Il y en a assez des barrières et des murs. La vraie religion, c'est celle du Christ qui donne des grands coups de pied dans les tables, qui se fait des fouets en disant « allez, dégagez-vous là, tout ça ». Vous mettez trop d'obstacles entre Dieu et nous et entre vous-même. Et le Christ, la lecture de la Bible, doit nous donner cette liberté et même cette créativité, cette force, cette audace d'aller vers l'autre et d'aller vers Dieu à notre manière, avec notre manière. Quand on a trop de règles, trop de principes, on ne peut plus accueillir Dieu. On ne peut plus voir l'autre, ni voir Dieu. parce que effectivement, l'autre n'est jamais tout à fait comme il faut, il ne fait jamais ce qu'il faudrait, il ne pratique pas comme il faut, mais au-delà des principes, il faut accueillir l'autre et savoir reconnaître l'essentiel. Et l'essentiel, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même. Aimez Dieu donc à votre manière, pas forcément avec des gestes ou des rites, mais simplement de tout votre cœur, sincèrement, fondamentalement. Et aimer votre prochain, ça veut dire simplement l'accueillir, l'écouter, lui donner une place, le respecter et même le considérer comme il est. Et donc chassons tous ces vendeurs, tous ces changeurs, tous ces marchands de pigeons et tout ça, et simplement aimons Dieu de tout notre cœur, notre prochain comme lui-même, et ça à notre façon, en faisant voler les barrières, les murs, les obstacles, les enfermements, les prisons et les principes. C'est ça le vrai chemin de la vie. Amen.